Donc Jennifer Magui, vous êtes doctorante en sociologie à l'université Rennes 2. Vous avez étudié la notion du bonheur que vous allez déconstruire prochainement au Diapason lors d'une conférence sur la tyrannie du bonheur.
C'est ça.
Alors ma première question c'est, est-ce que depuis Aristote, notre définition du bonheur a évolué ?
Alors oui, elle a fortement évolué du fait que la société aussi a évolué. C'est-à-dire que les mentalités évoluent aussi en fonction des comportements, des attitudes que les individus vont adopter. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on parle davantage d'une injonction au bonheur. C'est-à-dire qu'avant, le bonheur était un état passager. On disait à la bonne heure. Donc c'était fortuit, c'était inattendu, c'était quelque chose qui nous arrivait comme ça, presque fugace. Et aujourd'hui, on incombe aux individus un devoir d'être heureux, donc un devoir du bonheur. C'est pour ça qu'il y a un ouvrage récent qui est sorti de la sociologue, Eva Elouz, Apicratie, et qui parle justement de cette injonction morale et cette injonction sociétale à être heureux. Aujourd'hui, c'est devenu en fait une valeur cardinale. Dire qu'aujourd'hui, on n'est plus dans cet idéal un petit peu utopique, psychique, où c'était presque quelque chose qu'on touchait du doigt, un peu nuageux, un peu cotonneux. Aujourd'hui, on est plus vraiment, ça va axer et orienter, voire presque imposer. C'est pour ça qu'est-ce que c'est un bonheur imposé ou pas, ça sera encore une autre question. Ça va imposer nos actions et nos comportements, et nos manières aussi de concevoir.
Je viens te chanter la balade des gens heureux.
Les livres de développement personnel sont partout et représentent depuis quelques années les meilleures ventes en librairie. Tous vous promettent du bonheur, le pouvoir de devenir heureux.
Donc la société aujourd'hui n'aide pas forcément l'individu au bonheur, mais lui impose, l'oblige en fait à être heureux.
Voilà, c'est ça, ça va être insidieux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans ce qu'on appelle une société néolibéraliste.
Et ceux qui n'arrivent pas à être heureux, ceux qui n'ont peut-être pas envie d'être heureux, qu'est-ce qui se passe pour eux au sein
de la société ? Justement, les personnes qui justement n'adhèrent pas quelque part, mais c'est inconscient en fait, c'est des choses qu'on ne peut pas forcément, qui ne sont pas visibles comme ça, qu'on ne va pas dire d'une manière frontale du moins, ceux qui ne vont pas adhérer à ça vont être un petit peu exclus, et donc on va un petit peu mal les considérer, c'est-à-dire qu'on va les dévaloriser, ils vont se sentir un petit peu coupables finalement de ne pas vouloir adhérer à cette norme finalement sociétale qui est le bonheur.
Le bonheur qui est vendu du coup à toutes les doses un petit peu, on le voit maintenant dans le travail aussi des nouveaux métiers qui apparaissent, les happy managers par exemple, je ne sais pas si vous avez entendu parler, qu'est-ce que vous pensez de ces nouveaux métiers ?
Alors ça à mon sens ça relève je pense ce qu'on appelle communément sociologie le happy washing. Donc le happy washing, c'est en fait essayer de mettre en concordance des valeurs de bonheur, de joie, de sérénité et de bienveillance avec des conditions de travail adéquates. Et quelquefois, on se rend compte que justement, ça n'est pas du tout, c'est en dissonance, les deux choses arrivent en dissonance. Et les acteurs là que vous mentionnez du coup, qui viennent effectivement d'émerger dans la pratique, dans les pratiques managériales en fait de travail, font partie. En fait, contribue, illustre finalement cette volonté que l'on a d'imposer quelque part le bonheur.
Donc du coup, on peut être heureux au travail. Est-ce qu'on doit justement aller dans ce sens-là ? Est-ce qu'on doit aider les individus à être heureux sur leur lieu de travail ?
Alors, c'est bien effectivement de favoriser les meilleures conditions, de rendre les conditions les plus adéquates. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de choses aujourd'hui qui se font autour de l'entreprise, à savoir... Il y a des heures de méditation, il y a des salles de repos aussi pour les gens, pour qu'ils puissent canaliser, finalement, éviter les dérives de l'happy washing qui sont le burn-out. Ce que Alain Ehrenberg, qui est un sociologue et philosophe, parlait de la fatigue d'être soi, ce qu'on appelle les maladies de responsabilité, comme la dépression, l'anxiété ou les fatigues ou l'inhibition. C'est pour justement contrer tout cela qu'on va mettre en place des choses pour favoriser un cadre bienveillant. Mais je crois que le nœud finalement fondamental à tout ça et qui pourrait aussi un petit peu faire les résumés de vos questions, c'est qu'aujourd'hui, comme je disais tout à l'heure, on est dans une société néolibérale où justement c'est l'individu qui va primer. C'est le souffle individualiste qu'on va essayer d'insuffler et de distiller dans tous les secteurs de la vie sociale. Et aujourd'hui, le problème central, à mon sens, c'est qu'on n'arrive plus à faire lien, on n'arrive plus à faire collectif.
Vous pensez qu'on atteint une limite aujourd'hui ?
Je dirais pas qu'on atteint une limite, mais je dirais que sociologiquement parlant, ça questionne. Par rapport, effectivement, aux sociétés d'avant, les gens se pensaient au niveau des groupes d'appartenance, au niveau du collectif, au niveau de la communauté. Aujourd'hui, on est dans une dilution totale socio-anthropologique du lien social.
Donc notre salut va vers le collectif. On a besoin du collectif maintenant pour
On a besoin du collectif, mais j'ai pas l'impression que les pratiques aujourd'hui autour du bien-être, autour des pratiques douces, autour du voilà, de tout ce qui touche finalement au bonheur, tend à cela.
Est-ce qu'il y a des personnes qui cherchent à profiter de notre bonheur ? Est-ce qu'il y a des personnes qui cherchent à marchandiser nos émotions ?
Ah, c'est ce qu'on appelle les marchands d'émotions, effectivement. Bah bien sûr, mais ça, c'est, j'ai envie de dire, c'est comme dans toute activité. Il y aura toujours des gens qui vont utiliser un petit peu le versant négatif et utiliser effectivement la corde raide pour toucher à ça et faire croire à des personnes qui sont peut-être plus vulnérables, qui sont peut-être un peu plus fragiles et qui vont tomber complètement de haut, clairement.
Et comment ils s'y prennent pour justement mettre les individus dans ces positions de faiblesse ?
Alors ils vont, Eva Illouz et Edgar Cabanas, dans leur livre « Apicratie », ils parlent des marchandises émotionnelles. Aujourd'hui, je pense que vous vous en rendez compte, dans pas mal de secteurs de la vie sociale, aussi bien sur nos portables que dans notre vie dès lors qu'on marche, on a ce qu'on appelle des marchandises émotionnelles, c'est-à-dire, ça va être des applications, ça va être des services, par exemple du coaching, du développement personnel, ça va être par exemple, je ne sais pas, partout du sport à outrance, voilà, on va nous vendre des choses. Donc en fait, le bonheur est devenu une industrie capitaliste qu'on va essayer de nous vendre, qu'on va essayer de nous distiller. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure du changement du statut du bonheur. Tout à l'heure, vous parliez d'Aristote, mais c'est réellement ça. Ça s'est infiltré dans le réseau de l'économique. Et c'est pour ça qu'on... voilà, Gilles Lipovetsky, sociologue, parle de hyper-consommateurs. On est devenus des hyper-consommateurs, des homo consumericus. Voilà.
Homo consumericus.
Homo consumericus.
C'est le nouveau terme
voilà,
maintenant.
Nouveau terme. Après,
utiliser.
je sais pas si c'est de la mode ou pas.
Moi, je trouve très intéressant en tout cas.
Mais voilà, en attendant, on a l'impression de croire que pour atteindre ce bonheur, cette félicité, il faut en passer par le fait d'acheter, de consommer. Maintenant, le bonheur se consomme.
Et si on veut sortir de ce carcan, si on veut aller vers des modes de pensée un peu différents, est-ce qu'on peut trouver le bonheur justement en allant vers le nihilisme ou vers l'hédonisme ? Est-ce que ça peut être des solutions ?
Après, effectivement, c'est des courants de pensée, c'est des écoles de pensée, c'est des branches, en fait, finalement, du bonheur en tant que tel. Après, je pense que ça pourra davantage se jouer, à mon sens, comme je disais tout à l'heure, si on arrive à rattacher la notion de collectif au fait de vouloir être heureux et de ne pas forcément penser tout dans sa singularité et dans son individualité. Peut-être penser les choses ensemble, le faire société. Aujourd'hui, le faire société, il est quand même un petit peu en retrait.
Est-ce que dans d'autres pays, ils arrivent à mieux gérer le bonheur ? Je regardais sur Internet, par exemple, l'indice de bonheur dans les pays nordiques est plus élevé que le nôtre. Comment expliquer cette différence ?
Alors ça, c'est sûrement peut-être... Je n'ai pas vraiment de réponse à votre question, parce que c'est vrai que dans la conférence, je n'aborde pas vraiment cette thématique-là. Après, ça va être très subjectif, la réponse que je vais vous donner. Peut-être qu'ils n'ont pas aussi les mêmes valeurs. Nous, on vient quand même d'une culture judéo-chrétienne. Ça, c'est notre souche, en fait. C'est notre patrimoine, en fait, à nous.
La religion a encore un impact sur notre bonheur ?
C'est pas forcément la religion. Ça va être, à la base, effectivement, c'est quelque chose de religieux, mais après, qui va se distiller, qui va se transformer en logique sociale et en logique sociologique.
Et pour revenir, du coup, à votre conférence qui aura lieu prochainement, quel thème vous allez aborder ? Qu'est-ce que vous allez transmettre à vos spectateurs ?
Alors, ça va se découper en deux parties. Donc la première, donc je rappelle que c'est une communication à double voix que je fais avec ma professeure de thèse, Madame Sophie Lecoq. Donc elle, dans un premier temps, va essayer de mettre en perspective la notion de bien-être d'un point de vue sociologique. Et moi, je vais lui emprunter l'autre chemin. Donc je vais poursuivre son raisonnement en m'axant principalement, moi, sur le corps. Aujourd'hui, le culte du corps et le relier au bien-être et au bonheur.
Comment vous allez faire ça ?
Alors, comment je vais faire ça ? C'est-à-dire que je vais partir du principe que le corps n'est pas réductible à un individu isolé. C'est très important. Qu'il faut le replacer dans une conception sociologique, anthropologique. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on a peut-être tendance à penser les pratiques corporelles douces ou même tout ce qui est relatif en fait, à la méditation, au yoga, toutes ces nouvelles formes de sport. En fait, c'est dérivé, finalement, ces illustrations du bien-être. On a tendance à les penser dans un quant à soi, dans un entre-soi. C'est-à-dire qu'on va le faire en se disant « oui, parce qu'on va avoir de la satisfaction première, du plaisir premier. » Or, moi, ce que je vais essayer de faire, c'est de déconstruire finalement cette idée reçue, ce qu'on appelle en sociologie ce sens commun, afin d'aboutir à l'idée que finalement, le corps n'est pas réductible qu'à ça. Le corps, ce n'est pas que l'épaisseur de sa chair. Le corps, c'est aussi un agrégat, un ensemble de logiques sociales sous-jacentes. Et c'est ça qui va aussi expliquer et donner l'orientation aussi au bonheur.
Donc le corps, pour vous, c'est quelque chose de plus que ce qu'on touche, plus que la peau, c'est également sa famille, sa société.
Bien sûr, le corps, c'est le lien, c'est le lien. C'est ce qui va à un moment donné faire qu'on va aussi se mettre en interaction avec l'autre. Donc là, je vais mobiliser pas mal d'auteurs, je vais mobiliser notamment Foucault, je vais mobiliser Bourdieu pour dire qu'effectivement le corps il est modelé aussi par l'espace social, par nos par classe sociale, j'aime pas tellement ce mot-là, mais du moins par nos environnements, par là où on a l'habitude d'être, là où on a l'habitude de les environnements qu'on a l'habitude de côtoyer, l'éducation qu'on a eue, et qu'on ne peut pas penser le corps uniquement dans sa singularité, dans sa sphère autonome.
Et vous pensez que la société, justement, ou je ne sais pas après s'il y a d'autres facteurs environnementaux, font qu'aujourd'hui on se déconnecte les uns des autres ?
Moi je pense qu'il y a. Il y a effectivement, comme je disais tout à l'heure, on n'arrive plus tellement à faire société. Les gens finalement se pensent chacun dans leur bulle, chacun dans leur sphère, et on a du mal maintenant à penser la relation avec l'autre.
Est-ce que la politique pourrait aider justement les gens à revenir vers du lien social ?
Peut-être, après ça dépend de la manière dont c'est fait, ça dépend de l'orientation qu'on veut donner à cette politique. Moi, à mon sens, je pense qu'il manque un supplément d'âme sociologique et sociétale à la politique aujourd'hui. Mais c'est un point de vue vraiment subjectif, donc là je veux absolument pas imposer quoi que ce soit, mais je pense qu'on manque du fondement anthropologique même de l'altérité et de l'humain. Je pense que ça manque.
Et vous pensez que la tyrannie du bonheur a encore de beaux jours devant elle, ou au contraire, elle arrive vraiment à la limite et on va passer à autre chose ?
Malheureusement, si on continue dans nos carcans et dans nos œillères de pensée, malheureusement, ça risque de continuer. Mais c'est justement grâce à ces conférences-là qu'on veut essayer d'éveiller les esprits et d'essayer d'ouvrir des portes, en fait, de montrer qu'on peut déconstruire les choses et que il y a peut-être d'autres manières de penser, finalement, l'humain.
Et après cette conférence, qu'allez-vous faire ? Vous allez poursuivre du coup votre thèse et la présenter ailleurs ?
Alors moi, je vais poursuivre ma thèse, j'aimerais bien la rendre l'année prochaine. Je croise les doigts, c'est l'objectif. Et continuer aussi à donner des conférences, écrire des articles, parce que ma spécialité, c'est la sociologie du corps, donc c'est quelque chose qui me tient très à cœur. Donc poursuivre sur ma lancée.